Ère de la post-dissuasion. En deux. Australie. Debout devant la maison du vieux Coupard, Chung Sin contemplait les vagues bouillantes et chatoyantes du grand désert Victoria. Partout où pouvait se poser le regard, ce n'était qu'une large densité d'habitations de fortune tout juste sorties de terre. Sous le soleil de midi, ces constructions faites en contreplaqué et en tôle de métal semblaient neuves mais fragiles, un peu comme si on avait éparpillé des origamis sur le sable. Quand le capitaine Cook avait découvert l'Australie 5 siècles plus tôt, il n'avait jamais imaginé qu'un jour l'humanité tout entière serait rassemblée sur ce gigantesque continent presque désert. Chung Sin et A.A. avaient fait partie de la première vague de réfugiés. Chung Sin aurait pu choisir de se rendre à Canberra ou à Sydney pour y couler des jours plus tranquilles, mais elle avait insisté pour être traitée comme une citoyenne ordinaire, et elle avait été acheminée à l'intérieur des terres, là où les conditions de vie étaient les plus rudes. Elle avait rejoint la zone de migration située au milieu du désert, près de Warburton. Elle fut émue qu'A.A., qui, elle aussi, aurait pu s'installer en ville, la supplie de l'accompagner. Si la vie fut supportable les premiers jours, quand le nombre de migrants était encore limité, elle devint de plus en plus dure dans les zones de migration. Plus rude encore que les privations matérielles, c'était le harcèlement par les autres migrants. Chung Sin et A.A. vécurent au début seuls dans un abri, mais le nombre de réfugiés augmentant constamment, celui des occupants passa bientôt à 8. Les 6 autres femmes avec qui elle partageait ce logement étaient nées à l'époque paradisiaque de l'ère de la dissuasion. Pour la première fois de leur vie, elles devaient ici composer avec le rationnement de la nourriture et de l'eau, avec des murs inertes n'activant aucune fenêtre d'information, des chambres sans climatiseur, des toilettes et des douches publiques, des lits superposés. C'était une société absolument égalitaire, où l'argent n'avait plus cours, car tous recevaient les mêmes rations. Ces femmes n'avaient jamais vu un tel dépouillement ailleurs que dans des films ou dans des livres d'histoire. Pour elles, la vie dans la zone de migration était un supplice digne de l'enfer. Chung Sin devint naturellement la cible de leur colère. Elles déversaient sans trêve leur bile sur elle, la traitant de rebut de l'humanité, lui reprochant de n'avoir pas su effrayer les trisolariens et surtout d'avoir abandonné la dissuasion au moment même où elle avait reçu l'alerte de l'attaque. Si Chung Sin avait déclenché la diffusion par ondes gravitationnelles, les trisolariens se seraient enfuis d'effroi et l'humanité aurait pu jouir d'encore quelques décennies de quiétude. Et quand bien même la transmission des coordonnées de la Terre aurait causé sa destruction immédiate, cela aurait sans doute été mieux que de se retrouver accroupir dans ce trou à rats. Puis les insultes se muèrent en violence physique et en vol de nourriture. A.A. faisait de son mieux pour protéger son ami. Elle se disputait avec ses furies plusieurs fois par jour. Elle avait même une fois attrapé la plus médisante des 6 par les cheveux et lui avait frappé la tête contre le pied du lit superposé jusqu'à ce que son visage soit en sang. Les femmes se gardèrent par la suite de les brutaliser à nouveau. Mais elles n'étaient pas les seules à faire montre d'une telle haine envers Chung Sin. Les migrants du voisinage venaient régulièrement la harceler, lançant de temps à autre des pierres sur leur habitation, ou bien ils l'encerclaient et la couvraient d'injures. Chung Sin encaissait ce déferlement de haine avec placidité. Elle en éprouvait même un certain soulagement. Après tout, elle avait échoué dans sa mission de porte-épée, et elle s'était imaginé devoir payer un tribut plus lourd encore. C'est alors qu'un vieil homme nommé Coupard était venu la trouver et les avait invités, A.A. et elle, à venir habiter chez lui. Coupard était un descendant d'aborigènes australiens. Son visage noir était orné d'une barbe blanche comme la neige et, malgré ses 80 ans passés, il avait encore bon pied bon œil. En tant que natif, il avait le droit, pour l'instant du moins, de conserver sa propre maison. C'était un homme de l'ère commune. Avant la grande crise, il avait été membre actif d'une organisation de protection du patrimoine culturel aborigène. S'il s'était fait hiberner au début de la crise, c'était pour pouvoir poursuivre sa tâche dans le futur. À son réveil, il avait constaté que, comme il l'avait malheureusement auguré, les aborigènes d'Australie et leur culture étaient au bord de l'extinction. La maison de Coupard, construite au XXIe siècle à l'orée du Bush, était ancienne mais robuste. Après que Chung Sin et A.A. eurent emménagé chez lui, elles eurent une vie bien plus tranquille. Au-delà du confort matériel dont elles jouissaient désormais, elles trouvaient surtout chez le vieil homme un soutien mental. Contrairement à la plupart des humains qui n'éprouvaient désormais pour les trisolariens qu'une colère déchirante et une haine tenace, Coupard faisait face à tous ces événements avec un flegme inouï. Il parlait en réalité très peu de la situation de crise que tous devaient aujourd'hui affronter. Il se contentait généralement de cette phrase « Mes enfants, les hommes font, les dieux se souviennent ». Ce que les hommes avaient fait, les hommes s'en souvenaient aussi. 5 siècles plus tôt, des terriens dits civilisés, bien que la plupart soient considérés comme des criminels en Europe, avaient débarqué sur ce continent et massacré les habitants du Bush comme s'ils chassaient des bêtes sauvages. Plus tard, même quand ils avaient été forcés d'admettre que ces créatures étaient des hommes et non des animaux, l'extermination s'était perpétuée. Les aborigènes australiens vivaient sur cette vaste terre depuis des dizaines de milliers d'années. Ils étaient encore 500 000 à l'arrivée des Blancs en Australie, mais à force de massacres, leur nombre était tombé à 30 000 et ils avaient dû se réfugier dans les arides déserts de l'Ouest pour survivre. Lors de la proclamation des réserves par un Telectra, tous notèrent le choix du mot de « réserve », un terme jadis utilisé pour désigner les zones cédées aux populations indigènes sur un continent loin d'ici, où l'arrivée de terriens civilisés avait, là encore, réservé un sort tragique aux premiers habitants. À leur arrivée chez Coupard, A.A. se prit de curiosité pour toutes les antiquités dont regorgeait la maison. C'était comme un musée des cultures aborigènes d'Australie. Tout n'était que vieilles sculptures sur écorce et sur pierre, instruments de musique fabriqués en lamelles de bois et en rondins creux, robes en paille tissée, boomerangs, lances et bien d'autres objets. A.A. était en particulier fasciné par ces pots de peinture faits en argile blanc et en ocre rouge et jaune. Elle sut immédiatement à quoi ils étaient destinés. Elle s'embarbouilla le visage avec les doigts, puis entama une danse qu'elle avait déjà dû voir quelque part, riant et jurant que si elles avaient encore vécu dans leur ancien logement, elles s'amuseraient à terrifier ainsi les 6 garces qui le partageaient avec elle. Coupard éclata de rire et secoua la tête. Cette danse n'était pas originaire d'Australie. C'était une danse maori. Les gens venus d'ailleurs confondaient souvent les deux. Mais il existait de grandes différences culturelles entre ces deux peuples. Les aborigènes australiens étaient traditionnellement pacifiques, tandis que les maoris étaient de féroces guerriers. D'ailleurs, même si la danse d'A.A. était d'inspiration maori, elle avait échoué à capturer l'esprit de cette culture. Tandis qu'il parlait, le vieil homme s'enduisait le visage d'ocre, l'animant de couleur vive. Puis il ôta son haut de vêtement, révélant sa poitrine noire et ses muscles particulièrement saillants pour son âge. Il se saisit d'une authentique lance accrochée au mur et exécuta pour elle un haka de guerrier maori. Chung Sin et A.A. étaient subjugués par sa performance. Cet être d'ordinaire si amène et bienveillant s'était métamorphosé en un démon féroce et belliqueux, parcouru de la tête aux pieds par une agressivité martiale. À chacun de ses sauts et de ses rugissements, les fenêtres de la maison tremblaient et faisaient frissonner les deux femmes. Mais ce qui les ébranlait le plus, c'était ses yeux, roulants et bouillonnants de rage, ses yeux qui convoquaient toute la puissance de la foudre et des typhons du Pacifique, comme si son regard rugissait à l'adresse du ciel et de la terre « Ne fuyez pas, je vous tuerai, je vous dévorerai !» Sa danse terminée, Coupard retrouva sa gentillesse habituelle, puis il dit « L'important pour un guerrier maori, c'est de fixer son ennemi dans les yeux, de le vaincre par le regard, avant de l'achever d'un coup de lance. » Il marcha au-devant de Chung Sin et lui lança un regard lourd de sens. « Gamine, tu n'as pas su fixer ton ennemi dans les yeux. » Mais il lui tapota légèrement l'épaule en murmurant « Mais je ne te blâme pas. Je ne te blâme vraiment pas. » Le lendemain, Chung Sin fit quelque chose qu'elle-même eut du mal à s'expliquer. Elle alla trouver Wade. Après sa tentative de meurtre, Thomas Wade avait été condamné à 30 ans de prison et transféré dans un centre de détention de Charleville. Lorsque Chung Sin le vit, il était en train de fixer un panneau de contreplaqué à la fenêtre de ce qui deviendrait probablement un entrepôt. L'une de ses manches était vide. À cette époque, il lui aurait été facile de se faire greffer une prothèse qui ait à peu près les mêmes fonctions qu'un bras ordinaire, mais pour une raison inconnue, il avait choisi de rester manchot. Deux autres détenus, qui semblaient de toute évidence originaires de l'aire commune, sifflèrent Chung Sin à son passage, mais quand ils virent à qui elle était venue rendre visite, ils s'interrompirent et s'empressèrent de replonger dans leur labeur, comme s'ils craignaient d'être châtiés pour leur insolence. En s'approchant de Wade, Chung Sin fut surprise de constater que bien que celui-ci ait été condamné aux travaux forcés dans des conditions difficiles, il avait l'air en bien meilleure forme que lors de leur dernière rencontre. Il était rasé de près et ses cheveux étaient soigneusement peignés. Les prisonniers de l'époque ne portaient déjà plus d'uniforme, mais ici, c'était lui qui portait la chemise la plus blanche, plus propre encore que celle de ses geôliers. Il tenait quelques clous coincés entre les lèvres, se servant de sa main gauche pour les introduire dans le panneau, après quoi il les enfonçait avec force à l'aide d'un marteau. Il jeta un coup d'œil rapide à Chung Sin qui constata que son visage exprimait toujours la même froideur. Puis il continua son travail en silence. Dès le premier regard, Chung Sin sut qu'il n'avait pas abandonné. Ses ambitions et ses idéaux, sa fourberie et toutes ces choses qu'il dissimulait et dont Chung Sin n'avait jamais rien su. Il n'avait rien abandonné. Chung Sin lui tendit la main. Il la regarda, posa son marteau et y plaça ses clous. Puis il frappa un à un les clous qu'elle lui tendait. Ce ne fut que lorsqu'il n'en resta plus un qu'il rompit enfin le silence. « Pars !» dit Wade. Puis il sortit encore un clou de sa mallette à outils, mais cette fois ne le donna pas à Chung Sin et ne le coinça pas entre ses lèvres. Il le posa à ses pieds. « Je suis juste... » Chung Sin ne savait pas quoi dire. « Je veux dire, pars de l'Australie. Pars vite avant la fin de la migration, » murmura Wade. Ses lèvres ne vibrèrent presque pas lorsqu'il prononça cette phrase, et ses yeux demeuraient figés sur son panneau, si bien que n'importe qui pouvait croire qu'il était toujours pleinement concentré sur son ouvrage. Comme à tant de reprises depuis 3 siècles, Wade avait réussi à stupéfier Chung Sin avec une simple phrase. Chaque fois, c'était comme s'il lui lançait une pelote de laine qu'elle devait démêler, nœud après nœud, avant de saisir le sens complexe caché derrière. Mais cette fois, la phrase de Wade la fit frissonner, à tel point même qu'elle n'avait pas le courage d'essayer de la décrypter. « Va-t'en !» Wade ne laissa pas le temps à Chung Sin de l'interroger. Il se tourna vers elle et dévoila son sourire si singulier, cette craquelure au milieu d'une rivière gelée. « Cette fois, je t'ordonne de partir d'ici. » En repartant sur la route de Warburton, Chung Sin observa les abris des réfugiés qui s'étendaient jusqu'à l'horizon et la foule compacte qui s'entassait entre les rangées de bicoques. Brusquement, un changement se produisit dans son champ de vision, comme si elle contemplait tout cela depuis un autre lieu, en dehors du monde, comme si ce qui s'imposait à son regard était l'image d'un nid de fourmis grouillantes. L'espace d'un instant, cette perception étrange la plongea dans la peur, et les rayons de soleil brillants de l'Australie lui parurent aussi sombres et froids que lors d'une pluie d'hiver. Le 3e mois après le début de la migration, plus 1 milliard d'humains s'étaient déjà installés en Australie. Les nations avaient petit à petit transféré leur gouvernement dans les grandes villes australiennes. Les Nations Unies avaient pour leur part établi leur siège à Sydney. Le transfert des populations était coordonné par chaque gouvernement avec le concours de la Commission de la migration de l'ONU. Une fois arrivés, les migrants étaient regroupés par zone correspondant à leur pays d'origine, si bien que l'Australie était devenue une réplique en miniature de la Terre. À l'exception des grandes villes, tous les anciens toponymes avaient été abandonnés et remplacés par des noms de villes originaires des nations qui les occupaient. À présent, New York, Tokyo ou Shanghai étaient des camps de réfugiés où s'entassaient des taudis de fortune. Ni les Nations Unies ni les gouvernements n'avaient la moindre expérience d'une relocalisation d'une telle envergure et un grand nombre de difficultés et de dangers ne tardèrent pas à se présenter. Tout d'abord, le problème du logement. Les organismes qui coordonnaient la migration ne se rendirent que trop tardivement compte que l'importation de matériaux de construction du monde entier vers l'Australie ne permettrait finalement de satisfaire que les besoins d'un cinquième des réfugiés. Et ce, même si on entendait par « habitation » un simple lit où dormir. Quand le nombre de déplacés eut atteint 500 millions, il y avait déjà pénurie de matériaux. Il fut alors décidé d'installer des tentes immenses de la taille d'un stade d'une capacité d'accueil de 10 000 personnes. Mais dans un tel environnement et dans des conditions sanitaires aussi déplorables, les épidémies couvaient. La nourriture aussi commença à manquer. Les industries agricoles australiennes étaient loin de suffire pour subvenir aux besoins de tous les migrants. Il fallait importer des denrées du monde entier. Avec l'augmentation de la population des réfugiés, les processus d'approvisionnement et de répartition de la nourriture devenaient aussi plus longs et plus complexes. Mais le plus grand danger qui guettait l'humanité était le délitement de l'ordre social. Dans les zones de migration, la société ultra-connectée n'existait plus. Les nouveaux arrivants tentaient bien d'activer des fenêtres sur les murs, les tables de chevet ou même leurs propres vêtements, mais ils s'apercevaient rapidement que tout ici était inerte et déconnecté. Même les communications de base peinaient à être assurées et les nouvelles du monde ne leur parvenaient que par l'intermédiaire de canaux extrêmement limités. Pour les humains issus de sociétés dominées par la technologie de l'information, c'était comme s'ils perdaient la vue. Dans cette situation, les moyens de contrôle de la population dont étaient autrefois dotés les gouvernements perdirent toute efficacité et ceux-ci ignoraient comment maintenir l'ordre au sein d'une société surpeuplée. Une émigration humaine vers l'espace était simultanément en cours. À la fin de l'ère de la dissuasion, environ 1 500 000 personnes vivaient dans l'espace. Ces populations se divisaient en deux catégories. Environ 500 000 personnes appartenaient à des nations terrestres et étaient logées dans des stations et des cités spatiales en orbite géosynchrone ou sur des bases lunaires. Le reste appartenait aux différentes flottes regroupées sous la bannière de la flotte solaire et étaient réparties sur les bases de Mars et de Jupiter ou bien à bord des vaisseaux qui patrouillaient dans le système solaire. Les spationautes rattachés aux nations terrestres se trouvaient tous en orbite sublunaire. Il leur fallait non seulement revenir à la surface, mais aussi migrer comme tous leurs compatriotes vers l'Australie. Le million environ d'individus membres des flottes internationales fut pour sa part contraint de migrer vers les bases martiennes, la deuxième réserve attribuée à l'humanité. La flotte solaire n'avait jamais retrouvé l'ampleur qui avait été la sienne avant l'ultime bataille. À la fin de la dissuasion, les flottes ne possédaient plus au total qu'une centaine de vaisseaux interstellaires. Malgré les progrès continus de la technologie, la vitesse des vaisseaux n'avait pas augmenté, car la technologie des propulseurs à fusion nucléaire avait déjà été poussée à sa limite. À présent, l'avantage le plus terrifiant de la flotte trisolarienne n'était pas de pouvoir atteindre la vitesse de la lumière, mais d'y parvenir sans même avoir besoin d'accélérer. Tandis que si on prenait en compte leur consommation de combustible pour le voyage du retour, les vaisseaux humains devaient, eux, accélérer pendant une année entière pour atteindre seulement 15% de la vitesse luminique. En comparaison des vaisseaux trisolariens, les appareils humains étaient des escargots. Au lendemain du terme de la dissuasion, les quelques 100 vaisseaux interstellaires de la flotte solaire auraient pu avoir une chance de s'enfuir dans l'espace. Si tous s'étaient échappés à vitesse maximale dans diverses directions, les 8 gouttelettes n'auraient pas pu les rattraper tous. Mais aucun d'entre eux n'avait agi ainsi. Ils avaient sagement obéi aux ordres d'un tel Electra, retournant en orbite martienne. Il y avait une raison simple à cette docilité. La migration vers Mars ne représentait pas les mêmes contrariétés que la migration terrestre vers l'Australie. À l'intérieur des habitats clos établis sur Mars, ce petit million de citoyens de l'espace était assuré d'une vie confortable et civilisée, car les bases étaient conçues de telle manière à héberger des populations sur le long terme. Sans hésitation possible, vivre sur Mars était bien plus engageant que de se lancer dans une errance éternelle dans l'espace profond. Le monde trisolarien faisait toutefois preuve d'une méfiance extrême vis-à-vis des humains installés sur Mars. Deux gouttelettes qui stationnaient au niveau de la ceinture de Kuiper furent rappelées pour patrouiller dans le secteur spatial des villes martiennes. À la différence des migrants de la Terre, et même si la flotte solaire avait déjà été désarmée, les populations établies sur Mars avaient encore accès à la technologie moderne, sans laquelle les villes ne seraient plus habitables. Mais les humains de Mars n'oseraient pas courir le risque de fabriquer un transmetteur à ondes gravitationnelles. Un chantier d'une telle ampleur n'échapperait pas à la vigilance des intellectrons, et les terribles scènes de massacre ayant eu lieu un demi-siècle plus tôt au cours de l'ultime bataille étaient encore gravées dans leurs esprits. Les cités martiennes étaient des coquilles d'œufs fragiles. Le moindre impact d'une gouttelette provoquerait une dépressurisation qui précipiterait tous les habitants en enfer. En 3 mois à peine, la migration spatiale fut achevée. Les 500 000 spationautes qui vivaient en dessous de l'orbite lunaire rejoignirent l'Australie et le million de membres de la flotte solaire emménagèrent sur Mars. Désormais, il n'y avait plus aucune autre présence humaine dans l'espace du système solaire. Il ne restait plus que des cités spatiales vides et des vaisseaux fantômes voguant autour de la Terre, de Mars et de Jupiter et à travers la glaciale ceinture d'astéroïdes. Ces artefacts humains formaient un gigantesque cimetière métallique silencieux où reposaient la gloire et les rêves des hommes. Chez le vieux Coupard, Chung Sin n'obtenait des informations sur le monde extérieur que par l'intermédiaire de la télévision. Ce jour-là, elle suivit une retransmission en direct de la situation d'un centre de distribution de nourriture. La retransmission holographique donnait l'impression de se trouver soi-même sur place. Les informations télévisuelles nécessitant une bande passante ultra rapide étaient aujourd'hui de plus en plus rares. Celles-ci étaient réservées pour la diffusion de nouvelles importantes. D'ordinaire, on devait se contenter de suivre les informations en 2D. Le centre de distribution était situé à Kanerji, à la frontière du désert. Une immense tente apparaissait au centre de la scène holographique, un peu comme la moitié d'un œuf géant déposé dans le désert. Une foule en jaillissait comme de l'albumène s'épandant de l'œuf. La raison de cette cohue, 2 engins volants apportaient une nouvelle livraison de nourriture. Les appareils qui approvisionnaient les centres étaient de petite taille, mais possédaient des moteurs puissants. Ils pouvaient ainsi transporter leur cargaison dans un grand emballage cubique accroché au bout d'une élingue. Lorsque le premier des deux déposa son chargement sur le sol, la foule se rua vers lui comme un tsunami rompant une digue. Elle eut au fait de cerner et d'engloutir la pile de provisions. La barrière de sécurité formée par quelques dizaines de soldats présents pour maintenir l'ordre sauta dès le premier assaut, et les responsables en charge de la distribution furent si effrayés qu'ils remontèrent aussitôt dans l'appareil. Les cartons de nourriture fondirent aussi vite qu'une boule de neige dans une flaque d'eau boueuse. L'objectif de la caméra se rapprocha de la scène, et on put voir que les pilleurs étaient maintenant encerclés par une autre bande. Comme des grains de riz au milieu d'une colonie de fourmis, les sacs de provisions furent éventrés et plusieurs groupes se battirent comme des chiffonniers pour s'emparer de leur contenu éparpillé sur le sol. Le deuxième appareil déposa sa cargaison dans un endroit désert un peu plus loin. Il n'y avait cette fois aucun soldat pour maintenir l'ordre et le personnel en charge de la distribution n'osa pas descendre de l'engin. La foule se rua vers cette nouvelle pile de provisions comme de la limaille attirée par un aimant, la recouvrant rapidement. À cet instant, une silhouette verte s'échappa de l'appareil. Fluette et vigoureuse, elle atterrit avec grâce quelques dizaines de mètres plus bas, au sommet de la pile de provisions. La foule grouillante cessa de s'agiter. Tous avaient reconnu un Tellectra. Celle-ci était encore vêtue d'un treillis militaire et le ruban noir qu'elle portait autour du cou flottait dans le vent chaud, faisant ressortir la pâleur de son visage. « En rang !» cria-t-elle à l'adresse de la foule. L'objectif de la caméra zooma sur elle. Ses beaux yeux regardaient la foule avec fureur. Sa voix était si sonore qu'elle couvrait jusqu'au vrombissement des engins de livraison. Mais après un court instant de stupeur, la foule s'anima de nouveau et ceux qui se trouvaient les plus proches de la cargaison commencèrent à déchirer les filets pour s'emparer des sacs de nourriture. Gagnés par la frénésie, les pilleurs plus téméraires commençaient à grimper jusqu'au sommet de la pile, faisant fi de la présence d'un tel Electra. « Bande de bons à rien ! Pourquoi ne faites-vous pas respecter l'ordre ? » cria-t-elle aux engins suspendus dans les airs. Quelques fonctionnaires de la Commission de la Migration des Nations Unies se tenaient à la porte à moitié entrouverte de la cabine des engins de livraison, le visage livide. « Et vos soldats ! Et vos policiers ! Et les armes que nous vous avons autorisées à apporter ! Et votre sens de la responsabilité ! » Le président de la Commission de Migration se trouvait parmi eux. En se tenant d'une main à la porte de la cabine, il fit de l'autre un geste d'impuissance à l'adresse d'un tel Electra en secouant vigoureusement la tête. Un tel Electra sortit son sabre de samouraï de derrière son dos et, à la vitesse de l'éclair, elle fit quelques mouvements du bras, tranchant le corps de trois des individus ayant gravi la pile de nourriture. Les trois coups fatals avaient été portés de manière identique. La lame était entrée par l'épaule gauche et ressortie par le flanc droit, découpant les corps en deux sections obliques. Les six morceaux d'hommes giclèrent depuis la pile, leurs entrailles dispersées dans les airs, arrosant de sang le reste des pilleurs, avant de retomber confusément au milieu de la foule. Sous une pluie de cris et de gémissements de terreur, un Electra bondit depuis le sommet de la pile et atterrit sur le sol, reprenant son carnage aussi rapide que l'éclair. En un clin d'œil, une dizaine d'hommes tombèrent. Terrorisée, la foule recula et fit bientôt le vide dans un cercle dont un Electra était le centre, comme une goutte de liquide vaisselle au milieu de la couche d'huile d'un bol sale. Comme pour ses trois précédentes victimes, un Electra avait tranché le corps de ceux-ci, depuis leur épaule gauche jusqu'à leur flanc droit, afin d'assurer les plus grandes éclaboussures possibles de sang et de viscères. Devant une telle violence, beaucoup s'évanouirent. Un Electra s'avança et les hommes saisis d'horreur lui frayèrent un chemin. Elle semblait entourée d'un champ de force invisible qui lui permettait d'écarter la foule et lui garantissait d'avoir toujours le même cercle vide autour d'elle. Après quelques pas, elle s'arrêta et la foule se figea à nouveau. « En rang !» répéta un Electra d'une voix douce cette fois. La foule s'organisa immédiatement en une longue file d'attente parfaitement ordonnée, comme si elle suivait un algorithme de tri. La queue s'allongea jusqu'à la vaste tente, loin d'ici, et en fit même un tour complet. D'un bond, un Electra se retrouva de nouveau au sommet de la pile de nourriture et brandit son sabre dégoulinant de sang vers la rangée d'humains. « Le temps de la liberté dégénérée de l'humanité est terminé !» Si vous souhaitez survivre, vous allez devoir réapprendre le collectivisme et retrouver la dignité de votre espèce. Cette nuit-là, Chung Sin eut du mal à trouver le sommeil. Elle sortit discrètement de la chambre. Dehors, il faisait déjà nuit noire. Elle vit une lueur scintiller sur les marches du porche. C'était Coupard en train de fumer. Sur ses genoux était posé un didgeridoo. Un instrument traditionnel australien fabriqué dans une branche de bois percé, d'environ 1 mètre de long. Il en jouait chaque soir, assis là. L'instrument produisait un bourdon riche et lourd. Ce n'était pas de la musique, mais plutôt comme le ronflement de la terre. Toutes les nuits, Chung Sin et A.A. s'endormaient bercés par ce bourdonnement mélodieux. Chung Sin marcha jusqu'à lui et s'assit à ses côtés. Elle aimait la compagnie du vieil homme. Son attitude dégagée face aux troubles actuels faisait sur son cœur blessé l'effet d'un antalgique. Le vieil homme ne regardait jamais la télévision et ne se préoccupait pas de ce qui se passait ailleurs sur Terre. La nuit, il ne rentrait jamais dans sa chambre. Il dormait contre le pilier en bois du porche, se laissant réveiller par la chaleur des rayons de l'aube. Il demeurait ici même les nuits de tempête, prétendant que c'était toujours plus agréable que de dormir dans un lit. Il avait raconté que si les bâtards du gouvernement voulaient l'exproprier, il ne rejoindrait pas les zones de migration. Il partirait dans le bush, où il se fabriquerait un petit refuge pour y passer le restant de sa vie. A.A. avait beau lui dire que c'était compliqué à son âge, il rétorquait que c'était ce que ses ancêtres avaient toujours fait. Durant les glaciations quaternaires, ceux-ci étaient partis d'Asie et avaient traversé le Pacifique à bord de leurs pirogues. C'était il y a 4 millénaires, à un âge où les civilisations grecques et égyptiennes antiques n'existaient pas encore. Il leur expliqua qu'au XXIe siècle, il avait été un médecin fortuné possédant sa propre clinique à Melbourne. Après sa sortie d'hibernation à l'ère de la dissuasion, il avait également profité d'une vie avec tout le confort moderne, mais au début de la migration, quelque chose qui sommeillait à l'intérieur de lui s'était réveillé. Il avait soudain ressenti qu'il n'était qu'une créature parmi d'autres, appartenant à la terre et aux bouches, et il avait réalisé qu'on pouvait vivre de peu. Il appréciait désormais de dormir à la belle étoile. Coupard lui confia qu'il ne savait pas de quoi cela était le présage. Le regard de Cheng Xin se porta sur les zones de migration à l'horizon. La nuit était tombée et les lumières étaient plus ténues. Un calme devenu rare ces derniers temps émergeait de ces bicoques qui s'étendaient à perte de vue sous la lumière des étoiles. Cheng Xin eut soudain une sensation étrange, celle qu'ils étaient revenus 5 siècles en arrière, à l'âge d'une autre grande migration, quand ces hommes et ces femmes qui dormaient dans les abris du lointain n'étaient que des éleveurs et des gardiens de troupeaux bourrus. Elle pouvait presque sentir l'odeur du crottin et du foin. Elle partagea ce sentiment étrange avec Coupard. En ce temps-là, le continent n'était pas aussi peuplé. On raconte que quand un blanc voulait acheter un ranch à un autre blanc, il lui payait le prix d'une simple caisse de whisky, puis revenait à l'acheteur un domaine dont il pouvait faire le tour à cheval depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Les impressions que Cheng Xin avait de l'Australie lui venaient du film du même nom, Australia. Dans ce long métrage, les protagonistes convoient leurs troupeaux dans les magnifiques régions continentales du Nord. Il ne se déroulait néanmoins pas à une époque d'immigration, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, un passé récent quand elle était encore adolescente, mais qui était aujourd'hui de l'histoire ancienne. Elle songea avec une certaine mélancolie à Hugh Jackman et Nicole Kidman, qui devaient être morts depuis 2 siècles. Elle se fit soudain la réflexion que l'image de Wade bâtissant les abris avait quelque chose du héros du film. Tandis qu'elle repensait à Wade, elle rapporta à Coupard la phrase que ce dernier lui avait adressée un mois plus tôt. Cela faisait longtemps qu'elle voulait lui en parler, mais elle avait eu peur de troubler sa quiétude. « Je sais qui il est, » fit Coupard. « Gamine, je ne peux rien te dire d'autre sinon que tu aurais dû l'écouter à ce moment-là. Mais il est trop tard désormais pour quitter l'Australie. N'y pense plus. À quoi bon penser à des choses impossibles ?» Coupard disait juste. Il était maintenant bien compliqué de quitter l'Australie. Les gouttelettes n'étaient plus les seules à garder ses frontières. Des forces de sécurité navale humaine avaient été recrutées par les intellectrons pour attaquer sans sommation tous ceux qui prendraient des migrants à bord de leurs avions ou de leurs bateaux. Tandis que la date butoir fixée par Intellectra approchait, peu étaient les migrants prêts à rentrer dans leur pays d'origine. Même si les conditions de vie en Australie étaient déplorables, cela valait toujours mieux que de partir au casse-pipe. Il existait quelques rares réseaux de transport clandestins, mais un personnage aussi public que Cheng Xin attirerait trop l'attention. De toute façon, Cheng Xin n'y pensait pas. Peu importait l'évolution des choses, elle ne partirait pas d'ici. Coupard parut vouloir changer de sujet, mais le silence de Cheng Xin dans la pénombre signifiait qu'elle voulait en entendre davantage. Il reprit. « J'étais orthopédiste. Tu sais peut-être qu'après la guérison d'un os cassé, l'endroit où se trouvait la fracture devient plus robuste qu'il ne l'était avant. Dans notre jargon médical, c'est ce que nous appelons parfois une surcompensation. Le patient peut développer une capacité fonctionnelle supérieure à ses capacités premières. En d'autres termes, le corps récupère quelque chose qui lui manquait jusqu'ici. Eux, ils pointaient les étoiles dans la direction de Trisolaris. Il leur manquait quelque chose autrefois, comme tu le sais. Y a-t-il eu surcompensation? À quel degré? Personne ne le sait vraiment. Chung Sin était stupéfaite par cette idée. Mais Kupar ne souhaitait de toute évidence pas prolonger la discussion. Il leva les yeux au ciel et psalmodia lentement. Les villages ont disparu. Les lances se sont brisées. Ici, nous avons mangé sous les étoiles, et vous, vous y avez répandu des graviers. En l'écoutant, Chung Sin fut aussi émue que quand elle l'entendait souffler dans son didgeridoo. C'est un poème d'un écrivain aborigène australien du XXe siècle, Jack Davis. Quand le vieil homme eut fini, il s'adossa au pilier du porche et se mit bientôt à ronfler. Chung Sin se rassit sous ses kyrielles d'étoiles insensibles au bouleversement du monde. Elle demeura assise jusqu'à ce que l'Orient pâlisse. 6 mois après le début de la Grande Migration, la moitié de la population humaine, soit 2,1 milliards d'habitants, avait déjà rejoint l'Australie. La crise, jusque-là latente, explosa au grand jour. Au 7e mois de la migration eut lieu le massacre de Canberra qui marqua le début d'une série de cauchemars. L'obligation dictée par Intellectra d'entreprendre une migration nue était une idée proposée jadis à l'époque de l'ère de la dissuasion par les factions humaines les plus radicales pour parquer les futurs réfugiés trisolariens. Mis à part les matériaux d'architecture et les grandes pièces détachées destinées à la construction de nouvelles usines agricoles, ainsi que les produits de la vie quotidienne et les équipements médicaux, les migrants n'étaient pas autorisés à emporter en Australie le moindre matériel lourd, qu'il soit civil ou militaire. Parallèlement, des restrictions étaient imposées à chaque armée nationale, qui ne pouvait faire usage que d'armes légères pour maintenir l'ordre. Le reste de l'arsenal humain devait être entièrement démantelé. Une exception était toutefois faite pour le gouvernement australien, dont les armées de l'air, de mer et de terre étaient autorisées à conserver la totalité de leur attirail militaire. Cette nation restée en marge de la géopolitique internationale depuis sa naissance devint par conséquent du jour au lendemain le nouvel hégémon du monde humain. Aux premières heures de la grande migration, aucune action du gouvernement australien ne put être blâmée. L'État et les citoyens australiens s'efforcèrent d'accueillir au mieux les migrants. Mais à mesure qu'affluaient des vagues incessantes de réfugiés issus de tous les continents, l'attitude de ce pays qui avait jusqu'ici été le seul à posséder un continent entier commença à changer. La colère monta chez le peuple australien de souche, conduisant à l'élection d'un nouveau gouvernement qui durcit drastiquement les politiques à l'égard des migrants. Les Australiens perçurent très vite que l'avantage pris par leur pays vis-à-vis des autres nations était similaire à celui de Trisolaris par rapport à la Terre. Bientôt, les réfugiés furent déplacés en masse vers les terres désolées de l'intérieur du pays, tandis que les régions les plus prospères, telles que la Nouvelle-Galles du Sud, furent classées « territoires réservés » aux natifs australiens. L'immigration y fut déclarée illégale. Canberra et Sydney étaient ainsi désignées « villes réservées » et il était interdit aux réfugiés de s'y établir. Parmi les grandes métropoles, seule Melbourne fut ouverte à la migration. Le gouvernement national commença à dicter unilatéralement sa politique et à se placer au-dessus des Nations Unies et de toutes les autres nations du monde, se prenant pour la nouvelle « mère de l'humanité ». S'il était interdit aux migrants de s'installer dans la Nouvelle-Galles du Sud, il s'avérait cependant difficile d'empêcher tout déplacement à l'intérieur des terres. Aspirant à retrouver le charme de la vie urbaine qu'elles avaient été forcées d'abandonner, des masses de migrants déferlèrent sur Sydney. Et, quoiqu'elles ne soient pas autorisées à y séjourner, la plupart préféraient encore vagabonder dans les rues de la cité plutôt que de rejoindre les zones de migration du désert. Au moins, ils avaient toujours l'impression ici de faire partie du monde civilisé. Sydney suffoquait sous l'afflux permanent de nouveaux arrivants. Le gouvernement australien prit la décision d'expulser tous les migrants de Sydney et d'empêcher tout nouvel arrivant d'entrer dans la ville. Des conflits éclatèrent entre les forces de police et les réfugiés qui s'attardaient dans la cité, faisant de nombreuses victimes. L'incident de Sydney provoqua la fureur depuis longtemps contenue des migrants à l'égard du gouvernement australien. Très vite, plus de 100 millions de personnes fondirent sur la Nouvelle-Galles du Sud et sur Sydney. Face à ces émeutes et voyant le vent tourner, les autorités australiennes abandonnèrent leur position. Quelques dizaines de millions de personnes submergèrent et saccagèrent la cité, telle une gigantesque colonie de fourmis se jetant sur la dépouille encore fraîche d'un animal, laissant derrière elle une carcasse nue. La ville s'embrasa, les crimes se multiplièrent, et Sydney se métamorphosa en une jungle épouvantable. Les conditions de vie devinrent bientôt plus désastreuses encore que dans les zones de migration. Puis les cohortes de migrants changèrent de cible, se tournant vers la ville de Canberra, à 200 kilomètres de Sydney. En tant que capitale administrative du pays, Canberra accueillait une bonne moitié des gouvernements des nations du monde qui avaient décidé de s'y établir, ainsi que les Nations Unies qui venaient de quitter Sydney. Pour défendre les institutions, l'armée n'eut d'autre choix que de faire usage de la force, et cette fois, le nombre de victimes fut colossal. Pas moins de 500 000 personnes trouvèrent la mort, certaines sous le feu des forces de l'ordre, mais une grande majorité piétinée par les ruées de panique d'une foule de plus de 100 millions de personnes. Un grand nombre succomba aussi à la famine qui succéda aux troubles. Dans le chaos total qui se poursuivit pendant une dizaine de jours, des dizaines de millions de personnes furent privées de nourriture et d'eau. De profonds changements ébranlèrent la société des migrants. On découvrit que sur ce continent surpeuplé et affamé, la démocratie était devenue un système plus néfaste que la dictature. Les hommes en venaient à appeler de leur vœu la constitution d'un gouvernement ferme et totalitaire. L'ordre social existant se délita et les citoyens n'attendaient rien d'autre désormais de leur gouvernement que ceux-ci leur fournissent de quoi boire et manger et un espace où dormir. Le reste n'avait plus aucune importance. La société humaine rassemblée sur ce morceau de terre était comme la surface d'un lac pris dans une vague de froid. Elle givrait peu à peu sous l'effet d'un système autoritaire. La phrase prononcée par un tel lectra après avoir tranché les corps, « Le temps de la liberté dégénérée de l'humanité est terminé » devint un slogan, et les idéologies les plus ignominieuses, parmi lesquelles le fascisme, sortirent de tombe et revinrent sur le devant de la scène. Bien vite, les religions retrouvèrent le pouvoir dont elles avaient jadis été déchues et un grand nombre de citoyens se regroupèrent à nouveau sous différentes chapelles. Un zombie encore plus ancien que le totalitarisme revint à la vie, la théocratie. On n'échappa pas à la guerre, résultat inévitable d'un système de gouvernance autoritaire. Les conflits entre nations devinrent de plus en plus fréquents, d'abord simplement pour le contrôle de l'eau et de la nourriture, avant d'évoluer en lutte plus calculée pour l'accaparement des espaces de vie. Après le drame de Canberra, l'armée australienne constitua une force de dissuasion puissante et, sous l'égide des Nations Unies, elle se donna pour mission de faire respecter l'ordre par la force s'il le fallait. Sans l'action des autorités australiennes, une guerre mondiale aurait peut-être éclaté à l'intérieur même des frontières de l'Australie, et comme certains l'avaient prédit dès le début du XXe siècle de l'ère commune, les hommes se seraient cette fois battus avec des pierres et des bâtons. En dehors de l'armée australienne, aucune autre armée nationale n'était capable de doter ses soldats d'armes de corps à corps. Dès lors, celles les plus communément utilisées étaient des gourdins fabriqués à partir de pièces de métal arrachées au bâtiment, tandis que les épées antiques des musées connaissaient une seconde vie. Durant ces jours sombres, beaucoup se réveillèrent le matin avec le sentiment d'être encore aux prises avec leurs cauchemars. En à peine 6 mois, l'humanité avait fait un immense bond en arrière. Un seul pas avait été fait, mais il avait ramené les hommes au Moyen-Âge. En cette heure, Seule l'attente de l'arrivée prochaine de la deuxième flotte trisolarienne préservait les individus et la société d'un effondrement total. Celle-ci avait déjà dépassé la ceinture de Kuiper et, par certaines nuits claires, on pouvait voir à l'œil nu les flammes des vaisseaux en train de décélérer dans l'espace. Ces 415 points lumineux représentaient une lueur d'espérance pour les humains d'Australie. Tous avaient en mémoire la promesse d'un Telectra, et ils se prenaient à rêver que la venue de la flotte leur procure enfin la vie paisible et confortable à laquelle ils aspiraient. Le démon d'hier devenait aujourd'hui l'ange du salut, et le seul support spirituel d'une humanité qui priait chaque jour pour son avènement. À mesure que la migration se poursuivait, les cités des autres continents sombraient l'une après l'autre dans l'obscurité, devenant des villes vides et muettes comme un restaurant prestigieux éteignant ses lumières à la fin du dernier repas. Au 9e mois de la Grande Migration, le nombre total d'occupants de l'Australie atteignit 3 milliards 400 millions de personnes. Alors que les conditions de vie continuaient de se dégrader, le processus de migration fut interrompu. Les gouttelettes attaquèrent alors à nouveau les villes où se terraient les humains n'ayant pas encore rejoint l'Australie, et un Telectra renouvela son ultimatum. Quand la période d'un an serait révolue, commencerait immédiatement l'extermination de tous les humains vivant hors des réserves. L'Australie ressemblait à un fourgon cellulaire prêt à partir pour un voyage sans retour. Il était si bondé que l'habitacle menaçait de se rompre, tandis que, derrière lui, 700 millions d'autres détenus tentaient désespérément de se faire une place. Consciente des difficultés énormes auxquelles faisait face l'humanité afin de poursuivre la migration, un Telectra proposa comme solution d'utiliser la Nouvelle-Zélande et les autres îles du Pacifique comme des zones tampons. Ce dispositif se révéla efficace et, dans les 2 derniers mois et demi restants, 630 millions de réfugiés arrivèrent en Australie en transitant dans ces zones. Enfin, à 3 jours du terme de l'ultimatum, les derniers bateaux et les derniers avions escortèrent les 3 millions de migrants restants depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Australie. La grande migration était achevée. C'est ainsi que l'Australie accueillit l'immense majorité de la population humaine, soit 4 milliards 160 millions d'individus. Il ne restait plus hors du continent australien que 8 millions d'humains qu'on pouvait diviser en 3 catégories. 1 million s'était établi sur les bases martiennes, 5 millions avaient rejoint les forces de sécurité terriennes et 2 millions le mouvement de résistance terrienne. Une petite quantité d'individus était encore éparpillée un peu partout sur la planète, n'ayant pour des raisons diverses pas pu prendre part à la migration. Mais il était difficile d'estimer précisément leur nombre. Les forces de sécurité terrienne constituaient une milice humaine recrutée par Intellectra pour superviser la migration. Elle avait promis que tous ceux qui rejoindraient ses rangs seraient exemptés d'émigration et pourraient vivre librement dans les territoires occupés. Cette annonce suscita un engouement extraordinaire et, d'après les statistiques finales, plus 1 milliard de candidatures furent déposées en ligne. Parmi les 20 millions de candidats reçus à un entretien, 5 millions furent finalement recrutés au sein des forces. Ces quelques chanceux n'accordèrent aucune attention aux crachats et aux mépris que leur enrôlement généra chez leurs congénères, car ils savaient bien que ceux qui les injuriaient maintenant s'étaient eux aussi portés volontaires. Certains comparaient les forces de sécurité terrienne à l'organisation Terre Trisolaris, née 3 siècles plus tôt. En réalité, la nature des deux groupes était radicalement différente. Les membres de l'OTT étaient des guerriers animés par la foi, tandis que les miliciens des forces de sécurité étaient des opportunistes désireux d'échapper à la grande migration et de couler des jours plus tranquilles. Les forces de sécurité terrienne étaient réparties en 3 grands corps, asiatiques, nord-américains et européens. Ils avaient hérité de l'arsenal militaire abandonné par les nations de la Terre. Aux premières heures de la migration, les forces de sécurité avaient fait preuve de modération, se contentant d'appliquer à la lettre l'ordre donné par Intellectra de veiller au bon déroulement des déplacements de population de chaque pays et de garantir l'intégrité des infrastructures de base dans les différentes villes et régions du monde. Mais avec la recrudescence des problèmes rencontrés en Australie, l'avancée du projet de relocalisation avait de plus en plus de mal à satisfaire les exigences d'Intellectra et, sous son impulsion, les forces de sécurité devinrent de plus en plus brutales, ne reculant devant aucune violence, y compris à grande échelle, pour accélérer le processus. Les forces de sécurité furent directement responsables de la mort de plus d'un million de personnes. Pour finir, quand le délai imposé par Intellectra arriva à échéance, celle-ci leur ordonna d'éliminer toute vie humaine se trouvant encore hors des zones de migration. Les forces de sécurité se muèrent alors en légion de démons. À bord de leurs véhicules volants, armés de fusils laser, elles tournoyaient au-dessus des villes et des régions sauvages comme des faucons de chasse, tuant sans sommation le premier humain repéré. À l'opposé des forces de sécurité, le mouvement de résistance terrien était de l'or pur sorti des fourneaux de la catastrophe. Il comptait de nombreuses branches locales et, bien qu'il soit difficilement vérifiable, on estimait le nombre de ses partisans entre 1,5 million et 2 millions. Cachés dans les montagnes et dans les souterrains des villes, ceux-ci engageaient des actions de guérilla contre les forces de sécurité terrienne, attendant l'arrivée des envahisseurs trisolariens 4 ans plus tard pour lancer leur attaque ultime. De tous les mouvements de résistance en territoire occupé de l'histoire humaine, ce fut l'organisation dont les sacrifices furent les plus lourds. En raison de l'alliance des forces de sécurité avec Intellectra et les Gouttelettes, chaque assaut mené par les résistants équivalait pour ainsi dire à un suicide. Par ailleurs, ils ne pouvaient pas non plus opérer d'action collective car cela aurait offert l'occasion idéale aux forces de sécurité de les éliminer d'un coup. La composition du mouvement de résistance terrien était complexe. Il comptait dans ses rangs des individus issus de toutes les strates de la société, dont une part importante était née à l'ère commune. Les 6 anciens candidats à la mission de porte-épée faisaient partie des leaders du mouvement. À la fin de la Grande Migration, 3 d'entre eux étaient déjà morts au combat. Seul l'ingénieur Bi Yunfeng, le physicien Cao Bin et l'ancien officier Ivan Antonov étaient encore en vie. Tous les membres de la résistance étaient conscients de se lancer dans une guerre perdue d'avance. Ils savaient que le débarquement de la flotte trisolarienne 4 ans plus tard signerait leur arrêt de mort. Ces guerriers affamés, vêtus de loques, tapis dans les montagnes et dans les égouts des villes, étaient engagés dans un dernier baroud d'honneur pour l'humanité. Leur existence était la seule trouée de lumière au cœur de cet épisode sombre et douloureux de l'histoire humaine. À l'aube, Cheng Xin fut réveillée en sursaut par une série de grondements. Elle n'avait pas bien dormi en raison du bruit provoqué par l'arrivée continue de nouveaux réfugiés. Cheng Xin réalisa soudain que ce n'était pas la saison des orages et quand ces grondements se furent dissipés, le silence retomba brusquement. Elle ne put réprimer un frisson. Elle se leva précipitamment de son lit, enfila une veste et sortit de la maison. Elle faillit trébucher sur Coupard qui sommeillait sous le porche. Le vieil homme leva la tête et la regarda avec des yeux embrumés, puis il se cala à nouveau contre son pilier et se rendormit. Il faisait à peine jour. Dehors, une foule de gens observait l'Est avec une expression de terreur, tout en devisant à voix basse. Cheng Xin suivit leurs regards et vit une colonne de fumée s'élever à l'horizon. Noire et épaisse, elle paraissait déchirer la pâleur du ciel auroral. Cheng Xin apprit de la bouche des badauds qu'une heure plus tôt, les forces de sécurité terrienne avaient commencé à mener une série de raids aériens sur l'Australie. Leur cible principale était les systèmes électriques, les ports et les infrastructures de transport aérien et maritime. La fumée qui montait à présent était crachée par une centrale électrique à fusion nucléaire située à 5 kilomètres qui venait d'être attaquée. La foule leva la tête vers le ciel et vit avec frayeur se dessiner 5 traînées de condensation blanche dans le ciel encore bleu-noir, celle des bombardiers des forces de sécurité. Cheng Xin fit demi-tour et repartit dans la maison. Elle aussi était réveillée et avait allumé la télévision pour tenter de comprendre ce qui se passait dehors. Cheng Xin n'y prêta aucune attention. Elle n'avait pas besoin d'en savoir plus. Toute l'année durant, elle n'avait cessé de prier pour que ce moment n'arrive jamais. Ses nerfs étaient devenus si sensibles que le plus petit indice la guidait vers la bonne conclusion. Et aujourd'hui, au moment même où elle avait été tirée de son sommeil par ces grondements lointains, elle avait deviné ce qui s'était passé. Encore une fois, Wade avait vu juste. Chung Sin se rendit compte qu'elle s'était préparée depuis longtemps à ce moment. Sans même avoir besoin de réfléchir, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle expliqua à A.A. qu'elle devait rendre visite au gouvernement de la ville, puis sortit et attrapa son vélo dans la cour, le moyen de transport le plus pratique dans les zones de migration. Elle emporta un peu de nourriture et d'eau, sachant que ses chances de réussir étaient minces et qu'elle avait une longue route devant elle. Cheng Xin longea les ruelles bondées de réfugiés jusqu'à arriver à la mairie. Tous les pays avaient transplanté leur administration à l'identique dans les zones de migration. Celle où se trouvait Cheng Xin était une ville de taille moyenne, d'où étaient majoritairement originaires des gens du nord-ouest de la Chine. Cette zone portait le nom de cette cité laissée sur un autre continent et était dirigée par les mêmes gouvernants. La mairie était installée sous une grande tente 2 kilomètres plus loin. De là où elle était, Cheng Xin pouvait apercevoir le haut du chapiteau blanc. De nombreux migrants continuaient à affluer par vagues depuis 2 semaines, et les autorités étaient trop débordées pour organiser leur répartition selon les régions géographiques administratives correspondant à leurs origines. Ils se pressaient donc là où ils trouvaient de la place. Un nombre croissant d'habitants d'autres zones urbaines s'installait ici, dont beaucoup étaient issus d'autres provinces, parfois même d'autres pays. Pendant ces 2 derniers mois, il était entré 700 millions de nouveaux réfugiés en Australie, et la situation avait atteint dans les zones de migration un point de non-retour. Des 2 côtés de la chaussée, c'était une véritable mer humaine et un désordre absolu. Aucun logement n'avait été attribué aux nouveaux migrants et ils dormaient dehors. Beaucoup s'étaient réveillés paniqués par les bruits des explosions qui venaient de retentir et regardaient avec angoisse dans la direction d'où s'élevait la colonne de fumée. La lumière de l'aube enveloppait tout dans une obscurité bleue maussade. Baignés dans cette faible lueur, les visages des hommes paraissaient encore plus pâles. Une nouvelle fois, Cheng Xin eut la sensation étrange de contempler une fourmilière depuis une certaine hauteur. Tandis qu'elle se faufilait entre ces êtres blafards, elle avait au fond d'elle l'impression que le soleil ne se lèverait jamais plus. Elle fut prise de nausées et d'une fatigue intense. Elle stoppa son vélo, s'appuya contre le trottoir et vomit. Vomit tant qu'elle en pleura, vomit jusqu'à ce que son estomac se calme. Elle entendit non loin un enfant pleurer. Levant la tête, elle vit une mère et son enfant dans les bras au milieu d'un tas de couvertures. Ses cheveux étaient défaits et elle affichait un air sinistre. Elle laissait son enfant gesticuler sans rien dire, ses yeux abasourdis figés dans la direction de l'est. Les premiers rayons du matin firent scintiller ses yeux qui ne réfléchirent que torpeur et désespoir. Cheng Xin se souvint d'une autre mère, belle, vigoureuse, débordante de vie qui, devant le siège des Nations Unies, avait présenté son nouveau-né à Cheng Xin en l'appelant Sainte Marie. Où étaient maintenant cette femme et cet enfant? Une fois arrivé près de la grande tente de la mairie, Cheng Xin fut forcé de descendre de vélo pour se frayer un chemin dans la foule. En temps normal, l'endroit était pris d'assaut par des individus venant réclamer logement et nourriture, mais il était encore plus surpeuplé aujourd'hui car un groupe compact s'y était regroupé pour comprendre ce qui se passait. Cheng Xin dut expliquer qui elle était avant de pouvoir franchir la ligne de sécurité installée par la police devant la grande porte. L'officier, qui ne la reconnut pas, dut scanner sa carte d'identité. Quand il eut compris qui elle était, il adressa à Cheng Xin un regard qui resterait gravé dans sa mémoire et qui signifiait « Pourquoi vous avoir choisi ?» Une fois entré dans la mairie, Cheng Xin se retrouva devant une scène qui lui rappelait l'ère de l'hypercommunication. Dans le large espace en dessous de la grande tente planait un nuage de fenêtres d'information suspendues au-dessus de fonctionnaires de tout grade. De toute évidence, ceux-ci n'avaient pas fermé l'œil de la nuit car ils avaient l'air exténués et encore très occupés. Plusieurs services paraissaient contraints de cohabiter ici, malgré le manque évident d'espace. Ce qui évoquait chez Chung Sin l'image des salles de marché de Wall Street à l'air commune. Les employés tapotaient et écrivaient sur les fenêtres d'information affichées devant eux, lesquelles se déplaçaient ensuite automatiquement vers d'autres personnes pour la suite de la procédure. Ces fenêtres chatoyantes étaient comme les mannes d'un âge tout juste révolu dont c'était ici le dernier lieu de rassemblement. Dans un petit bureau aux quatre murs en contreplaqué, Chung Sin rencontra le maire. Il était très jeune. Son visage féminin aux traits gracieux trahissait la même fatigue que ses subalternes, mais on pouvait aussi lire en lui un trouble et un émoi qui laissaient penser que le fardeau dont il avait la charge était trop lourd pour lui. Sur le mur, une grande fenêtre d'information donnait à voir l'image d'une ville. Celle-ci était bâtie à la surface, selon les normes anciennes, et seules quelques bâtisses arboricoles émergeaient parmi les autres architectures. La cité paraissait de taille moyenne. Chung Sin nota que l'image n'était pas statique et qu'une voiture traversait le ciel de temps à autre. À en croire la luminosité, cela devait aussi être l'aube. Chung Sin réalisa que l'image semblait prise depuis une fenêtre de bureau. Il était fort possible que cette ville soit celle où avait jadis vécu et travaillé le maire. En voyant sa visiteuse, celui-ci lui adressa le même regard que l'officier, mais il se montra courtois et lui demanda ce qu'il pouvait faire pour l'aider. « J'ai besoin de contacter un Telectra, » demanda-t-elle sans détour. Le maire secoua la tête, mais la surprise suscitée par sa requête parut chasser sa léthargie, et il lui répondit avec gravité « Ce n'est pas possible. Tout d'abord, nous n'avons pas les moyens à notre niveau hiérarchique de pouvoir directement communiquer avec elle. Même le gouvernement provincial ne pourra pas vous aider. Tout le monde ignore de plus où elle se trouve maintenant. Et puis, les communications avec l'extérieur sont difficiles. Nous avons perdu le contact avec le gouvernement provincial et il n'y aura bientôt plus d'électricité ici. Serait-il possible de me conduire à Canberra ? « Je ne peux vous fournir aucun avion, mais je peux vous affréter un véhicule terrestre. En revanche, vous risquez de rouler moins vite que si vous alliez à pied. Madame Chung, je vous recommande chaudement de ne pas partir d'ici. C'est le chaos partout maintenant, c'est dangereux. Les villes sont bombardées. Vous serez plus en sécurité ici. » En l'absence de réseau électrique sans fil, il n'était plus possible d'utiliser des voitures volantes dans les zones de migration. On devait compter sur les voitures terrestres et les avions, mais les routes étaient presque inaccessibles. Chung Sin venait tout juste de sortir de la mairie lorsqu'elle entendit une nouvelle explosion. Une colonne de fumée s'éleva dans une autre direction. La foule, un peu plus tôt simplement anxieuse, était à présent saisie de panique. Chung Sin parvint à se frayer un passage et à retrouver son vélo. Elle avait pris la décision de parcourir les 50 kilomètres de distance qui la séparaient du gouvernement provincial pour tenter d'établir le contact avec un Telectra. Et si elle échouait, elle trouverait un moyen de se rendre à Canberra. C'était de toute façon la dernière chose qu'elle pouvait faire. Quoi qu'il arrive, elle ne laisserait pas tomber. La foule se calma soudain. Une fenêtre d'information s'était affichée au-dessus de la mairie, presque aussi large que la grande tente. Cette fenêtre n'était habituellement activée que lorsque la mairie avait des annonces importantes à faire. En raison de l'instabilité de la tension électrique, la fenêtre vacillait, mais dans le ciel encore sombre de l'aube, l'image qu'elle montrait était limpide. On y voyait le Parliament House de Canberra. Le bâtiment avait été achevé en 1988, mais on le désignait encore aujourd'hui sous le nom de New Parliament House. De loin, la structure ressemblait à un énorme bunker construit à flanc de montagne. Au sommet se trouvait ce qui était sans doute le drapeau le plus haut de la Terre. Celui-ci était accroché à la pointe d'un mât de plus de 80 mètres maintenu par quatre pieds en métal qui symbolisaient la stabilité, mais qui donnait davantage aujourd'hui l'apparence d'un cadre de tente. C'était désormais le drapeau des Nations Unies qui flottait tout en haut du mât. Depuis les troubles de Sydney, les Nations Unies avaient en effet basé leur nouveau siège à Canberra. Chung Sin sentit un poing se fermer autour de son cœur. Elle savait que le jour du jugement dernier était arrivé. L'image bascula sur la chambre des représentants à l'intérieur du bâtiment. Là étaient rassemblés les dirigeants des nations terrestres et spatiales pour participer à une réunion de crise convoquée par Intellectra. Celle-ci se tenait au parloir, toujours vêtue de son treillis et de son ruban noir, mais ne portant cette fois aucun sabre sur le dos. La cruauté s'était effacée de son visage et elle resplendissait de beauté. Elle s'inclina devant l'audience et Cheng Xin reconnut la silhouette si douce de celle qui avait exécuté pour A.A. et elle la cérémonie du thé japonaise 2 ans plus tôt. « La migration est terminée », fit Intellectra en s'inclinant à nouveau. « Merci. Merci à tous les hommes. Vous avez réussi là un exploit formidable, équivalent à celui des premiers hommes lorsqu'ils partirent d'Afrique il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Une nouvelle ère commence pour les deux civilisations. » Tous les participants levèrent la tête, saisis de terreur. Ils avaient manifestement entendu dehors le bruit d'une explosion. Les 3 longues lampes suspendues au plafond de la chambre des représentants chancelèrent, faisant vaciller avec elles toutes les ombres de la salle, ce qui donnait l'illusion que le bâtiment lui-même était en train de trembler. Mais Intellectra continua son discours. « Il vous faudra encore 3 mois de patience et de souffrance avant que la grande flotte trisolarienne vous apporte une nouvelle vie de bonheur. » J'espère que l'humanité fera preuve d'un comportement aussi exemplaire qu'au cours de la Grande Migration. Je proclame à présent que la réserve humaine d'Australie est entièrement coupée du monde. Cette sonde cosmique à interaction forte, assistée par les forces de sécurité terriennes, organiseront le blocus total de cette région. Tous ceux qui tenteront de fuir l'Australie seront considérés comme des envahisseurs du territoire trisolarien, et traité comme tel. La dédissuasion de la Terre se poursuivra. Ces 3 prochains mois, la société humaine des réserves devra revenir à l'état de société agraire et de basse technologie. L'utilisation de n'importe quelle technologie moderne, électricité comprise, sera interdite. Vous avez déjà dû remarquer que les forces de sécurité étaient en train de procéder à un démantèlement ciblé de toutes les centrales électriques du continent australien. Cheng Xin vit que les participants échangeaient des regards perplexes. Chacun semblait implorer son voisin qu'il interprète pour lui les dernières paroles d'Intellectra, tant ce qu'elle venait de dire était insensé. « C'est un génocide !» hurla hystériquement quelqu'un dans la salle, tandis que les ombres continuaient à osciller comme des pendus au bout d'une corde. Un génocide. Assurer la survie de plus de 4 milliards d'humains sur le continent australien n'était pas si impensable. La densité de population de l'Australie s'élevait depuis la fin de la Grande Migration à 50 habitants par kilomètre carré, soit moins que celle du Japon avant la migration. Mais les plans d'origine comptaient sur l'exploitation des industries agricoles de pointe. Pendant la migration, nombre de ces compagnies avaient été délocalisées en Australie et une bonne partie avait déjà été remise en service. Au sein de ces usines, les cultures génétiquement modifiées croissaient 10 fois plus vite que les cultures traditionnelles. Mais la lumière naturelle ne fournissait pas une énergie suffisante pour une telle croissance. Et il fallait faire usage de puissantes sources de lumière artificielle nécessitant de grandes quantités d'électricité. Sans électricité, les produits agricoles que l'on faisait pousser dans les bacs de croissance des usines et qui comptaient sur l'absorption de rayons ultraviolets ou de rayons X pour leur photosynthèse pourriraient en 1 ou 2 jours de temps. La réserve de nourriture ne permettait de subvenir aux besoins des 4 milliards 200 millions d'habitants que pour 1 mois seulement. Je ne comprends pas votre réaction, affirma Intellectra avec une perplexité sincère à l'adresse de celui qui avait crié au génocide. Et la nourriture? Où va-t-on trouver de la nourriture? Cria quelqu'un d'autre. Ils n'avaient déjà plus peur d'Intellectra. Leur désespoir écrasait tout le reste. Intellectra balaya la pièce du regard. De la nourriture? Regardez tout autour de vous, vous êtes entouré de la nourriture bien fraîche. La voix d'Intellectra était détendue, C'était comme si elle rappelait réellement aux humains l'emplacement d'un entrepôt dont ils auraient oublié l'existence. Personne ne répondit à ces paroles. Le plan trisolarien de destruction massive, programmé depuis longtemps, entrait dans sa dernière phase. Il était trop tard pour dire quoi que ce soit. Intellectra reprit. « Dans cette compétition pour la survie qui s'annonce, la plupart seront éliminés. Dans 3 mois, quand la flotte arrivera, il ne restera probablement que 30 à 50 millions d'humains sur ce continent. Les ultimes vainqueurs pourront alors mener une vie libre et civilisée dans la réserve. Le feu de la civilisation terrienne ne s'éteindra pas, mais il ne restera qu'une étincelle, comme une flamme éternelle dans un tombeau. » La Chambre des représentants était construite sur le modèle de la Chambre des communes britannique, et son architecture était quelque peu étrange. Elle était ceinturée par plusieurs galeries en hauteur, tandis que les représentants des nations prenaient place sur des bancs situés au premier rang. Tous avaient l'impression que la salle allait bientôt être couverte d'une pierre tombale. « La vie a toujours été le résultat de plusieurs facteurs de chance. Cela a été le cas sur Terre dans le passé, et c'est la même règle partout ailleurs dans notre univers cruel. Mais je ne sais à partir de quand, l'humanité s'est laissée bercer par l'illusion que la vie était un droit inaliénable. C'est la raison fondamentale de votre échec. La bannière de l'évolution flottera à nouveau sur ce monde et vous lutterez pour votre survie. Je souhaite à tous ceux qui sont présents ici de faire partie des 50 millions de survivants. Je vous souhaite de manger de la nourriture et de ne pas être mangé par elle. « Ah !» gémit soudain une femme dans la foule, non loin de Chung Sin, sa voix déchirant l'aube comme une épée tranchante. Mais son cri fut instantanément englouti par un silence de mort. Chung Sin sentit le ciel et la terre tourner autour d'elle. Elle n'avait pas conscience d'être tombée. Tout ce qu'elle voyait, c'était la grande tente et la fenêtre d'information à son sommet qui remplissait son champ de vision. Elle ne sentit qu'après coup le contact de son dos sur le sol, comme si c'était en réalité la terre qui s'était redressée contre elle. Le ciel du matin était un océan sombre, et les nuages rendus rouges par les rayons du levant semblaient être des gouttes de sang flottant à sa surface. Une tache noire apparut au centre de son champ de vision, s'étirant à grande vitesse, telle une feuille de papier qui s'enflamme au-dessus d'une bougie. Le noir recouvrit bientôt tout. Elle reprit rapidement conscience et ses deux mains retrouvèrent la sensation moelleuse du sable sur le sol. Elle se dressa sur ses jambes et attrapa son épaule gauche avec sa main droite pour s'assurer qu'elle avait bien repris ses esprits. Mais le monde avait disparu. Tout était enveloppé de ténèbres. Chung Sin écarquilla les yeux, mais elle ne vit rien d'autre que du noir. Elle avait perdu la vue. Elle fut assaillie par toutes sortes de sons, mais elle ignorait si ceux-ci étaient réels ou si c'était des illusions. Des bruits de pas par vagues, des cris, des pleurs et bien d'autres sifflements étranges et indistincts, comme une rafale de vent dans une forêt de bois mort. Elle fut percutée par quelqu'un en train de courir et eut bien du mal à se rasseoir. Ténèbres. Tout autour d'elle n'était que ténèbres, des ténèbres aussi épaisses que de l'asphalte. Elle se retourna dans la direction qu'elle pensait être l'est, mais même dans son imagination, elle ne parvint pas à voir le soleil. Ce qui se levait à sa place était une énorme roue sombre qui saupoudrait le monde de ses rayons de lumière noire. Dans cette obscurité sans bornes, elle crut reconnaître une paire d'yeux dont les pupilles se fondaient dans le noir ambiant. Mais elle pouvait tout de même sentir leur présence, elle pouvait sentir leur regard. Étaient-ce les yeux de Yun Tianming? Elle avait sombré dans l'abysse. C'était donc ici qu'elle pourrait le rencontrer. Elle entendit appeler son nom. Elle s'efforça de chasser cette hallucination de son esprit, mais la voix continuait à retentir, obstinée. Elle finit par comprendre que la voix venait du monde réel. C'était une voix aux accents féminins d'un homme de cette époque. « Êtes-vous le docteur Chung Sin ?» Elle hocha la tête, ou du moins eut le sentiment qu'elle hochait la tête. « Qu'est-il arrivé à vos yeux? Vous ne voyez plus? Qui êtes-vous ? Je suis officier dans une unité spéciale des forces de sécurité terrienne. Un Telectra m'envoie vous extrader d'Australie.
Pour aller où?
Où vous voudrez. Elle s'assurera de votre confort de vie. Bien entendu, elle a précisé qu'il fallait que ce soit de votre plein gré.
À cet instant, Chung Sin remarqua la présence d'un autre son qu'elle avait d'abord pris pour une hallucination, le bourdonnement d'un hélicoptère. L'humanité maîtrisait déjà la technologie de l'antigravité, mais celle-ci consommait une énergie telle qu'elle n'avait jamais été réellement mise en application, et la majorité des engins volants dans l'atmosphère utilisaient encore des hélices traditionnelles. Elle sentit une bourrasque lui fouetter le visage, ce qui confirmait qu'un hélicoptère était en vol stationnaire non loin d'ici.
« Puis-je parler à un Telectra ?»
Quelqu'un plaça un objet dans sa main, un téléphone mobile. Chung Sin le colla contre son oreille et entendit aussitôt la voix d'un Telectra.
« Bonjour, porte-épée. »«
C'est moi, Chung Sin, je vous cherchais. »«
Pourquoi me cherchais-tu ? Tu penses encore pouvoir sauver le monde ?»
Chung Sin secoua lentement la tête.
« Non, je n'ai jamais cru que je le pouvais. Je voudrais juste sauver deux individus, je vous en prie. »«
Lesquels ?»
Aa et Kupar.
La gamine Pipelette et le vieil aborigène? Et c'est pour ça que tu me cherchais?
Oui. Demandez à ceux qui sont venus me chercher de les emmener ailleurs où ils pourront vivre en paix.
Ce sera facile. Et toi?
Ne vous préoccupez pas de moi.
Tu ne vois donc pas ce qui se passe?
Non. Mes yeux ne voient plus rien.
Tu veux dire que tu es devenu aveugle? Tu n'as pas été bien nourri ?
Chung Sin était surprise. Un Telectra avait certes déjà rencontré Aa, mais comment savait-elle qui était Kupar ? Tous trois avaient en effet pu profiter de rations de nourriture suffisantes, et Kupar n'avait pas été exproprié, au contraire de la plupart de ses voisins. Par ailleurs, depuis qu'Aa et elle avaient emménagé chez le vieil homme, personne n'était revenu les harceler. Chung Sin avait toujours pensé que c'était le gouvernement local qui la protégeait, et elle ne comprenait que maintenant que c'était un Telectra qui n'avait cessé de veiller sur elle. Chung Sin était bien sûr consciente que ce n'était pas réellement elle, mais un groupe d'extraterrestres qui la contrôlait à 4 années-lumière d'ici. Toutefois, comme tout le monde, elle la considérait comme un être en soi, comme une femme. Cette femme qui s'apprêtait à massacrer 4,2 milliards d'humains veillait sur elle.
Si tu restes ici, tu finiras par te faire manger par les autres,
dit un Telectra.
Je sais, répondit Chung Sin, impassible.
Il lui sembla entendre un soupir.
Soit. Un intellectron restera toujours près de toi. Si tu changes d'avis ou si tu as besoin d'aide, il te suffira de parler pour que je t'entende.
Chung Sin demeura silencieuse. Elle ne la remercia pas. Quelqu'un lui attrapa le bras, c'était l'officier des forces de sécurité.
« Je viens de recevoir l'ordre d'emmener vos deux amis. Docteur Chung Sin, quittez cet endroit, je vous en conjure. L'Australie deviendra bientôt un enfer sur Terre. »
Chung Sin secoua la tête.
« Partez. Vous savez où il se trouve, n'est-ce pas ? Merci. »
Elle écouta le bruit de l'hélicoptère. Sa cécité avait rendu son ouïe extraordinairement sensible, presque comme un troisième œil. Elle entendit l'engin s'élever puis atterrir 2 kilomètres plus loin. Quelques minutes plus tard, il décolla à nouveau et s'éloigna peu à peu. Rassurée, Chung Sin ferma les paupières. Elle était en réalité enveloppée par le même voile sombre que lorsque ses yeux étaient ouverts. Au milieu d'une mare de sang, son cœur brisé retrouvait un peu de paix. Cette obscurité dans laquelle elle était plongée était étrangement devenue un bouclier, car à l'extérieur de celle-ci naissait une terreur plus grande encore, quelque chose capable de faire frissonner le froid et d'assombrir les ténèbres. L'agitation s'intensifiait autour d'elle. Bruit de pas, de heurts, de coups de feu, d'injures, de cris, de râles, de pleurs. Avait-il commencé à s'entre-dévorer ? Cela ne pouvait être aussi rapide, Chung Sin pensait que même dans un mois, lorsque les réserves de nourriture seraient vides, la plupart des humains répugneraient à manger leurs congénères, et que la plupart seraient donc éliminés. Peu importait que les 50 millions de survivants soient encore ou non considérés comme des hommes, l'humanité disparaîtrait. Une simple phrase pouvait désormais résumer toute l'histoire humaine. Nous sommes sortis d'Afrique, nous avons marché pendant 70 000 ans et nous sommes arrivés en Australie. Ici, l'humanité était revenue à son point de départ, mais elle ne pouvait cette fois plus repartir. Son voyage était terminé. Il y eut des pleurs d'enfants. Chung Sin mourait d'envie de prendre cette petite créature dans ses bras. Elle repensait encore à ce nouveau-né qu'elle avait enlacé 2 ans plus tôt devant le bâtiment du siège des Nations Unies. Sa douceur, sa chaleur et son adorable sourire. Son instinct maternel lui brisait le cœur. Chung Sin avait peur que ses enfants aient faim.